18h-19h, Time Sport, avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. On est le mardi 7 mai et vous êtes dans Time Sport comme chaque jour de 18h à 19h. Ce soir, grosse soirée Champions League et l'équipe est au complet pour cela. Avec vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, ce soir on accueillera un invité de classe mondiale, Pedro Miguel Pauleta, l'homme des coupes, sera avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. Restez donc tout au long de l'émission connecté avec le 01 53 48 3000 et le hashtag TimeSport sur la Twittosphère pour réagir avec Monsieur Pauleta. Au menu de cette émission, les opposants au projet de la réforme de la Ligue des Champions, Jean-Michel Aulas à la rencontre du successeur de Genesio, mais aussi de la Première Ligue avec les Citizens de Manchester City avant de prendre la direction de Liverpool et le choc de ce soir tant attendu avec les Blaugrana du FC Barcelone. On terminera avec un petit mot sur la NBA et ses playoffs. C'est parti, go go TimeSport.
TimeSport.
Et ce soir, pour m'accompagner en plateau, on aura Nassim Bourras. Comment ça va, Nassim ?
Ça va très bien, bonsoir à toi.
Tu vas bien ?
La forme, toujours.
Ouais, il nous a ramené le soleil. C'est Mamadou Lamine Mané, Nassim, tu vois ?
Eh oui, je l'ai promis hier, il est là. Je suis bien avec le soleil.
C'est un peu voilé, hein ?
Non, bah j'ai fait ce que j'ai pu, quand même.
Ouais, tu as fait, ouais. Ça fait rien. En tout cas, lui, il est bien présent. C'est Guillaume Ascari. Tristan Telfouche aussi sera avec nous. Il y a du monde ce soir.
Yes, salut Bilou, salut tout le monde.
Ça va, pimpan, fringant. Bah, il est Tristan.
Comme ça fait toujours
plaisir. En mode beau gosse, et oui, c'est soir de Ligue des Champions. Lui, il est à la recherche de son nouvel entraîneur. C'est Jouba Wishen. Comment ça va, Jouba ?
Bonsoir Bilal, ça va très bien. Très heureux d'être là ce soir encore.
Et pour la première fois avec nous sur l'antenne, c'est un certain monsieur, grand monsieur, c'est Stéphane Tchiki. Comment ça va, Stéphane ?
Toujours content d'être là.
Et oui, et de parler du FC Barcelone, entre autres, ou encore du Parc des Princes et de son équipe qui est le Paris Saint-Germain. Avec
mon
toi.
Club de cœur. Ouais. On a un moment un peu difficile, mais on est champion.
Ouais, en tout cas, on verra tout cela justement avec ce demi-finale retour opposant les Reds de Liverpool face à Barcelone d'un certain Léo Messi. On entame cette émission.
Time Sport, le ras-le-bol.
La Super League au menu de cette émission. Les opposants au projet de la réforme de cette Champions League vont se réunir ce mardi du côté de Madrid, de la capitale espagnole, avec l'objectif de parvenir à une opposition commune contre l'éventuelle Super League quasi fermée que prévoit de créer certains grosses écuries du continent européen à partir de 2024. La régularité, messieurs, dames, et l'insistance avec laquelle les réunions et les rumeurs se précisent n'augure-t-il de l'imminence et du caractère inéluctable de cette fameuse Super League, véritable serpent de mer pour le football européen. Nassim, on t'écoute.
Bah, forcément, oui, ça va être inéluctable. Au bout d'un moment, forcément, le format donc, qu'on connaît actuellement de la Ligue des Champions va finir par disparaître. Ça, c'est une certitude. Déjà, l'UEFA a annoncé officiellement qu'il y aura une troisième Coupe d'Europe qui va arriver, en dessous de celle de l'Europa League. Pour permettre aux plus petits clubs d'avoir une chance de pouvoir jouer l'Europe. Donc déjà, c'est annonciateur d'un changement majeur qui va arriver, sûrement très certainement vers 2022-2024. Donc là, oui, la Ligue des Champions va changer, ça c'est une certitude. Après, de quelle manière va-t-elle changer ? Est-ce que ça va être une ligue totalement fermée façon NBA ou une ligue quasi fermée ou une compétition comme on la connaît actuellement mais avec quelques modifications mineures ? On ne le sait pas encore. Mais beaucoup de personnes ont leur avis. Par exemple, il y a le président de Naples, De Laurentiis, qui a proposé tout récemment une Ligue des Champions avec les 7 premiers.
Elle est en mauvaise posture, le club de Naples.
Oui, bah justement,
président.
Lui, ce qu'il a proposé, c'est que
l'UEFA l'a tranché déjà pour son stade, qui est le Sao Paulo, de ne plus jouer des matchs pour la phase finale de la Champions League l'année prochaine.
Exactement. Ouais. Et lui, ce qu'il propose, c'est que les 7 premiers des 5 championnats, c'est-à-dire France, Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, soient directement qualifiés pour cette Ligue des Champions. Et du coup ça donnerait une compétition avec 20 groupes donc 19 matchs sans aller-retour, ça sera des matchs secs donc ça c'est une proposition comme une autre, mais chacun a son avis, le nerf de la guerre étant l'argent, parce que justement chacun de ces clubs veut justement avoir une part redistribuée beaucoup plus élevée.
Les ligues nationales et au moins 150 clubs européens, dont ceux de la Serie A, sauf les plus gros, Juventus, l'Inter, National de Milan, l'AC Milan et l'AS Roma seront de la partie. Ces clubs dits « petits » entre guillemets ont-ils une infime d'être entendus face au poids des mastodontes du football européen ? Stéphane, on t'écoute concernant cette Super League.
C'est un sujet très compliqué parce que les intérêts des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Et surtout, je pense que les syndicats des joueurs ne défendent pas les mêmes intérêts que les syndicats des clubs. Donc, les grands clubs veulent se protéger entre eux pour pouvoir rester garder la main là-dessus sur le calendrier. Parce qu'il y a aussi un débat de faire jouer des matchs de compétition européenne les week-ends. Et alors, la question se pose de comment tu fais pour faire des matchs de championnat le week-end et des matchs de compétition européenne. Voilà, mais je pense que chaque pays défend ses caractéristiques. Par exemple, pour la France, je pense que ce serait un vrai handicap s'il y avait une troisième compétition européenne, parce que déjà là, pour ceux qui savent, le tour préliminaire pour le troisième du championnat de France, déjà, c'est deux tours. Ensuite, pour pouvoir accéder, si en plus c'est une autre compétition européenne.
Ah, c'est difficile, quoi.
Voilà, on va faire combien de tours? Ça veut dire que les joueurs, ils finissent la saison fin mai, ils reprennent début juillet, ils ont un mois de vacances, et début juillet, ils doivent recommencer encore la compétition.
Plus de repos, Stéphane.
Plus de repos.
Ouais. Tristan, réaction. Super League, à la suite de Stéphane Tiki.
Déjà, c'est super que tu nous fasses aborder ces sujets. Je pense qu'ils ne sont pas assez abordés.
Oui, il faut des fois.
Il faut clairement en parler. Les clubs, tous les, entre guillemets, petits clubs, mais des clubs qui sont quand même. Qui ont quand même énormément de supporters, qui sont très suivis, que ce soit en Italie, en France, partout, en Europe, qui sont contre ce projet qui fait finalement l'affaire que des plus grands clubs. Après, malheureusement, comme l'a dit Nassim, on sait que le format va évoluer. C'est pas tant le problème qu'il évolue, mais si, parce que on rappelle que le format avec 8e de Ligue des Champions, etc., il est là depuis 2003-2004, donc finalement, c'est pas si lointain que ça, ça fait 15 ans. Sur l'histoire du foot, c'est pas énorme non plus, mais par contre, comment on le fait évoluer, il faut surtout pas que ça devienne une ligue fermée avec aucune incertitude sur quelles équipes seront qualifiées, etc. Ça tue vraiment l'essence du foot, et on l'a dit, on le répète, et donc on soutient tous ces clubs qui sont aujourd'hui à Madrid pour essayer de s'entendre avec les plus gros poissons.
Jouba,
c'est là tout le problème, c'est que si on a une ligue fermée avec tous les plus grands clubs inscrits dedans, on risque justement de jouer les week-ends, parce qu'on va vouloir la mettre en avant. Les droits télévisés, ça va venir de là. Les plus grands clubs veulent cette compétition pour justement pouvoir rester.
On est d'accord avec toi, Stéphane. Ouais.
Mais du coup, ça va créer ça va créer des problèmes avec les championnats, avec les ligues, et les plus petits clubs vont être pénalisés déjà pour ne plus jouer de compétitions européennes ou des compétitions européennes qui vont être beaucoup moins suivies. Donc économiquement, ce sera plus compliqué. Ça va créer un énorme fossé entre justement ces clubs, et on va justement l'agrandir. Déjà qu'en France, on a ces problèmes entre le PSG et les autres, ça risque de créer un vrai problème directement européen. Et je pense que c'est pas bon pour le football.
Moi, je vais juste rebondir sur ce que tu disais, mais entièrement d'accord avec toi, notamment sur le droit télévisé. Parce que si avec des champions marche aussi bien, par exemple, ce soir, on a une grande affiche avec deux grands monstres du football, c'est parce qu'il y a des grands clubs. Mais si maintenant, on a une troisième compétition européenne, sans critiquer les petits clubs, mais si par exemple, c'est une équipe comme Nantes ou une équipe comme Nice, et même en Angleterre encore, chaque club se vaut, mais en Italie, si tu enlèves à partir du top 6, les clubs sont plus connus et personne ne paiera les droits télévisés pour aller regarder ces clubs là
mais
tout le débat, il est là. Je pense qu'on a pas compris quelque chose. On est dans un virage. Alors, c'est pas pour ou contre, c'est que ça va se faire. Le modèle économique, il a totalement changé. Ça a été anticipé par beaucoup de choses. Moi, je me souviens que on parle de l'époque du grand Milan AC avec Arrigo Sacchi à sa tête. On parlait Silvio Berlusconi à la tête du Milan AC. On parlait déjà de ce fameux ligue fermée. Et petit à petit, ça rentre tout doucement dans les mœurs. Alors, on va se battre à vouloir savoir petit club, pas petit club. Même les petits clubs dont on parle aujourd'hui, entre guillemets, eux-mêmes ont compris que la bataille, ils l'ont perdue parce que eux-mêmes vont être obligés de s'inscrire pour pouvoir recevoir les miettes de ce gâteau. Parce que ça va pas se passer autrement. C'est la force des choses. On est dans un système, sans faire de géopolitique, on rentre dans un système complètement capitalistique, qu'on le veuille ou pas. Ou alors on change de modèle. Mais et moi, je parle même d'autre chose. Tu verras que d'ici quelques années, je fais pas de l'anticipation, c'est pas un roman de science-fiction. L'épicentre du football ne se situera plus en Europe. Ça, il faut arrêter de rêver. Quand on voyage un petit peu, quand on bouge un petit peu, le monde économique aujourd'hui, il est centré sur l'Asie, avec ce Moyen-Orient qui fait aujourd'hui. Qui commence à arriver, avec l'arrivée des Qataris au PSG, avec l'arrivée de ces grands moyens.
Tu nous dis que le football va voyager.
Mais il va voyager.
Autre que le vieux continent.
Mais on verra dans 10-15 ans. Ouais. Alors, si on aura la chance d'être vivant encore, on verra que l'épicentre du football, moi je suis persuadé, qu'il va se déplacer au Moyen-Orient et qu'il se déplacera même en Asie. Parce que économiquement, les puissances économiques se trouvent là-bas. Et le football aujourd'hui ne vit pas d'autre chose que des droits télé. Si les droits télé, on n'est plus capable de les payer ici, ils iront ailleurs. Et on verra des joueurs se déplacer de plus en plus. Ce qui se passe aujourd'hui, quand on fait venir des joueurs, genre Tevez ou autre chose, il y a des choses. Alors, ça nous paraît complètement incongru parce que pour nous, dans notre ADN, le football est situé, il est basé en Europe, certes, Mais les choses, elles évoluent, comme l'économie évolue. Aujourd'hui, on a des puissances qui se déplacent, qui vont faire leur marché ailleurs. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, vous verrez, si l'Europe ne fait pas ce qu'il faut, et je pense que si aujourd'hui cette Super League, elle se met en place, c'est pour pouvoir contrecarrer ce qui se prépare de l'autre côté. C'est ma vision des choses.
Là, c'est mon rebondi avec toi concernant cette Super League.
Oui, je voulais rebondir sur les propos de Mamad. Je ne suis pas totalement d'accord sur le fait que l'épicentre va changer avec aussi peu de temps, d'ailleurs, sur 15 ans. Je pense que si c'est le cas, c'est peut-être dans 50 ou même quasiment presque un siècle.
Peut-être que la durée, peut-être que le temps que j'ai donné en termes de temporalité, peut-être c'est peut-être non, trop court.
Moi, je suis même pas sûr que ça va se produire. Pourquoi ? Parce que je prends le cas d'un exemple précis avec la NBA, qui est justement une ligue totalement fermée. Alors oui, l'argent est bel et bien en Asie et en Europe plus qu'aux États-Unis. Et justement, ce qui se passe, c'est que la ligue fonctionne très bien aux États-Unis, mais ils se déplacent parfois pour disputer des matchs. En Asie, c'est plus pour la Summer League, donc l'été. Et en Europe, c'est plus pour disputer des matchs de saison régulière. Mais attention, la NBA reste un produit américain.
Parce que c'est un produit américain. C'est un produit américain.
Et le football...
L'essence du basket, aujourd'hui, elle est américaine.
Mais l'essence du football est européen.
Certes. Mais si tu ne fais pas l'effort aujourd'hui pour monter ce qui se passe aujourd'hui, pour monter des sortes d'agglomérations financières qui vont pouvoir le gérer, si ça ne se fait pas là... T'inquiète pas que les autres vont préparer quelque chose pour que ça puisse se déplacer chez eux. Et le basket, d'ailleurs, s'il est si fort que ça, le basket, pourquoi le basket aujourd'hui cherche à exporter son modèle? Le basket cherche à venir aujourd'hui en Europe. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il est concurrencé. On ne voit plus ça en termes de sport. Moi, je vois plutôt ça en termes de ce qu'on appelle en anglais l'entertainment, à savoir comment faire le business du sport spectacle.
Tu parles du business, tu parles de l'entertainment. Le problème, c'est qu'il y a aussi des considérations géographiques à prendre en compte.
Possible.
Pour le coup, les États-Unis sont éloignés du reste du monde. Donc, du coup, pour disputer des matchs à l'autre bout du monde, ça devient très vite compliqué, ne serait-ce que par rapport à la santé des joueurs. Moi, ouais. Je pense que le problème principal de cette Super League, c'est surtout les clubs amateurs. Par exemple, des clubs comme Reims ou Hoffenheim en Allemagne, qui étaient dans le monde amateur, ne pourront plus monter, même avec l'apport de l'argent, division pour jouer l'Europe.
Est-ce que tu penses que ce paradigme-là, est-ce que tu penses que ceux qui fabriquent ce sport-là se soucient de ce qui va se passer derrière?
Mais non, mais le plus grave dans cette affaire, c'est imagine les clubs amateurs décident, non mais moi j'ai plus envie d'être un pourvoyeur de joueurs pour les clubs européens, j'arrête mon entreprise, les clubs amateurs pourraient très bien disparaître ou faire grève qu'on a pu le voir en NBA il y a quelques années avec un blockout. Donc imaginez que ces clubs-là mettent la clé sous la porte ou fassent grève. Là, pour le coup, c'est le football.
La différence avec les franchises NBA, c'est qu'elles s'autosuffisent. Leur ligue sert toute l'année. Il y a les playoffs derrière. Ils ont un vrai modèle, rien que pour eux. Le problème avec
te laisser finir, Juba. Aujourd'hui, la formation se privatise de plus en plus. Aujourd'hui, on privatise la formation. Quand les clubs amateurs qui sont des pourvoyeurs de joueurs qui deviennent professionnels par la suite, aujourd'hui, et même ici en France, moi je vois de plus en plus de structures privées qui font de la préformation et qui font de la formation. Et à un moment donné, ils ont l'argent. Ce que font les amateurs, aujourd'hui, c'est en train d'être suppléé par du privé. On monte des structures privées qui elles-mêmes forment ces joueurs-là.
Ouais.
Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je suis pas en train de donner mon avis, mais chemin que c'est en train de prendre.
En France, par exemple, on parlait de la France parce que c'est aussi ce qui nous intéresse, c'est que en plus de défavoriser les clubs, ça va défavoriser la magie un peu qu'on avait. Par exemple, avec Lille cette année qui se qualifie en Ligue des Champions pour l'année prochaine, comment on aura ça les années suivantes? Comment Auxerre peut arriver en Ligue des Champions comme on a eu il y a quelques années?
Je suis d'accord.
Et c'est ça qui va nous manquer dans la Ligue des Champions, dans la nouvelle formule.
Tristan, réaction Tristan.
Si tu regardes simplement la Ligue des Champions, tu as une demi-finale cette année, c'est Ajax-Tottenham. C'est deux clubs, alors l'Ajax c'était il y a 20 ans et Tottenham c'était jamais arrivé. Donc ça montre bien que même si, tu as raison Mamad, on a perdu la guerre entre guillemets depuis longtemps et le football business a déjà pris son envol depuis bien longtemps et peut-être que dans 30 ans ils voudront faire la Super Ligue mondiale, j'espère qu'on sera encore là dans ce studio à dire qu'on n'est pas du tout d'accord avec ça. Et que c'est pas normal.
Je tiens à préciser quand même.
Juste pour finir.
Vas-y.
Finalement, c'est vrai que le foot maintenant, il faut l'argent, mais on voit encore chaque année que la magie de ce sport fait que des petites équipes arrivent à se hisser pendant une saison au niveau d'équipes censées être plus fortes. Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'on aime ce sport.
Je sais que Stéphane veut prendre la parole, mais juste pour dire, je tiens à dire que c'est pas mon avis personnel. Aujourd'hui, je peux pas dire que je suis pour ce football-là. Je fais juste un constat, dire la vitesse à laquelle il avance et que malgré tout, il s'infiltre partout. Bien sûr que Paris par essence, moi je suis pour la spontanéité dans le football. Et le foot business, c'est tout sauf la spontanéité, parce qu'on fabrique quelque chose qui est préconçu, qu'on va ranger dans un tiroir. Mais je suis pas pour ce foot là. Moi j'essaie juste de faire un constat et de amener juste une analyse.
Stéphane.
Moi je rejoins Tristan, évidemment.
Ouais. D'accord avec
lui. Il est vrai que le foot business est présent. De toute façon, si on se dit que c'est pas vrai, ce serait mentir. Maintenant, il faut quand même dire que pour moi, la beauté du football, c'est d'avoir une équipe comme Ajax. Personne n'aurait pu jamais imaginer. Moi, je me rappelle d'ailleurs les débats à l'époque où il y avait Ajax Juventus. 99% des gens pensaient qu'Ajax allait prendre 3-0 à l'aller, 3-0 au retour. Et ça montre aussi que le football, c'est pas que les grands clubs, c'est pas que les grands noms, c'est pas que on fait des mercatoires de 250 millions d'euros. Et ça montre aussi la beauté. Et sur ce que tu disais aussi, parce que franchement, Lille l'année dernière, ils étaient quand même, ils sont luttés contre la relégation. Exactement. Qui aurait pu imaginer que cette année ils seraient deuxième du championnat? Pareil pour Saint-Etienne, qui a vécu un moment difficile avant l'arrivée de Jean-Louis Gasset, qui n'avait pas entraîné, puisqu'il rappelons qu'il était quand même le premier adjoint de Laurent Blanc, qui se lance dans le bain comme ça et qui là aujourd'hui sont coûte à coûte au niveau européen. Non, c'est ça aussi qu'il faut qu'on se batte nous à notre petit niveau, et après il faut que les clubs aussi, les petits soient représentés. Je sais pas si Monsieur Aulas défend l'intérêt des petits clubs.
Justement, on va en parler, Stéphane. On va en parler. Voilà. Tu restes avec nous de Jean-Michel Aulas au menu de cette émission. Vous restez bien avec nous. Le 0153 48 3000 pour réagir. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 18h25, toujours en compagnie de vos consultants. Une équipe au complet ce soir, je le rappelle. Stéphane Tiki pour m'accompagner, Jouba Wichen, avec Nassim Bourast, Tristan Telfouche, sans oublier Guillaume Ascari et Mamadou Lamine Mané. Justement, avant de prendre notre invité, un mot sur cette équipe qui était justement la Juventus de Turin. Je ne sais pas si on va voir. Bon, on va enchaîner directement avec notre invité ce soir. On le reçoit pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. C'est Pedro Miguel Pauleta, ex-attaquant et international portugais, ex-attaquant du Grand Paris Saint-Germain, passé aussi par les Girondins de Bordeaux. Bonsoir Pedro, comment allez-vous?
Bonsoir, très bien, merci.
Une première réaction, Pedro. Première question de l'équipe de Tamsport. Comment voyez-vous cette fin de saison du Paris Saint-Germain version Thomas Tuchel?
Bon, c'est une saison qui n'est pas terminée bien. C'est pas terminé bien depuis la finale de la Coupe de France. C'est vrai que l'équipe n'est pas réussie, mais ne pas oublier que Paris était champion. C'est vrai que c'est pas beaucoup pour le moment, avec l'effectif que l'équipe a aujourd'hui, nous attendait toujours plus de points. Mais le football, c'est comme ça. C'est nécessaire une réaction de l'équipe pour les trois matchs qui restent du championnat.
Pedro Miguel Pauleta, une réaction avec Tristan Telfouche, un consultant de Tamsport.
Bonjour Pedro, j'ai une question à poser. Vous êtes une ancienne gloire de ce club du PSG. On entend parfois qu'avant le Qatar, il n'y avait pas de PSG. On sait que c'est faux pour ceux qui ont un minimum de culture foot. Moi, la question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que la direction parisienne ne devrait pas plus s'appuyer sur son histoire et sur des anciennes gloires comme vous ou comme les joueurs du PSG Canal pour construire une identité et non pas paraître pour un club nouveau riche qui veut un peu bousculer la hiérarchie seulement à coups de billets?
Écoutez, ne jamais ne oublier une histoire d'un club. Paris Saint-Germain, c'est un grand club. C'est grâce à tous les joueurs, à tous les supporters qui ont réussi dans cette club pendant toute l'histoire du club. C'est vrai. C'est vrai aussi que depuis qu'arrivaient les gens de Qatar, ils ont fait de bons travaux pour le club, ils ont fait venir de grands joueurs. À partir de là, nous devrions penser que Paris va continuer à grandir, c'est ça que j'attends. Mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il existe une grande pression sur l'équipe pour gagner la Champions League. Nous voir que chaque fois que tu es éliminé dans la Champions League, tu as l'impression que ça a terminé la saison pour l'équipe, pour le joueur. Et ça, c'est pas vrai. Pour qu'il y ait des titres en France pour gagner, chaque année, la vérité, c'est que la Coupe de la Ligue et la Coupe de la France nous a manqué. Et ça, c'est important de continuer à gagner des compétitions comme cela pour faire grandir encore plus le club, pour qu'un jour, je suis sûr que ça va arriver la Champions League.
Et on l'espère, Pedro Miguel Paoletta pour le Paris Saint-Germain. Réaction, on poursuit cette interview pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM avec Guillaume Ascari.
Bonsoir Monsieur Paoletta, évidemment, vous êtes l'homme des coupes, vous êtes aussi l'homme qui a marqué le Paris Saint-Germain. Est-ce que on peut imaginer un jour un retour de Pedro Miguel Paoletta au Paris Saint-Germain ?
On verra, c'est jamais dans le futur. Aujourd'hui, vous savez, je travaille à la Fédération de football, comme directeur de la formation. On ne sait jamais. Nous verrons dans le futur. Mais le plus important, ce sont les gens qui sont dans le club aujourd'hui. C'est eux le plus important. Et c'est eux qui vont faire.
En tout cas, vous ne fermez pas la porte.
Grandir, continuer à grandir.
Vous fermez pas la porte.
Non, moi je continue à être fidèle à Paris Saint-Germain. Je fais pas mal de choses avec l'académie, les académies de Paris Saint-Germain, avec la fondation. Je continue avec une grosse délégation. C'est un club que je respecte beaucoup. Mais comme je dis toujours, aujourd'hui je suis au Portugal avec la fédération. Je sais bien. Après, dans le futur, on verra.
On le verra bien en tout cas, on suivra de près. Nassim Bourras, on t'écoute pour Pedro Miguel Paoletta, une réaction.
Oui, bonsoir Pedro. Je voulais savoir, on parle souvent de ce PSG-là comme d'un PSG qui a beaucoup de faiblesses mentales. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là ?
Toute faiblesse mentale. Quand on regarde l'effectif de Paris Saint-Germain, il y a aujourd'hui, il ne faut pas penser à ça, avec des joueurs de grande qualité, des joueurs internationaux, des joueurs qui sont habitués à jouer de grandes compétitions, de jouer avec la sélection, je ne crois pas, mais c'est vrai que ça manque quelque chose. C'est vrai aussi que tu ne peux pas changer chaque année tout le monde. C'est nécessaire une stabilité dans les.
Alors, Pedro Miguel Paoletta, on va enchaîner avec Mamadou Lamine. Il a une réaction pour vous. Il a une question plutôt.
Oui, Pedro, juste une petite question. On sait que le Paris Saint-Germain a beaucoup de supporters portugais. Quelles ont été vos relations avec ces supporters portugais ? Est-ce que vous avez une relation particulière avec la communauté portugaise de Paris ? Ou alors, vous les considériez un petit peu comme des supporters, comme les autres, de ceux qui remplissaient les travées du parc ? Est-ce que vous avez eu des relations particulières, privilégiées avec les supporters portugais ?
Écoutez, pour moi, les supporters du Paris Saint-Germain sont tous pareils. Ils sont des supporters qui vivent la vie de club, qui aiment le club. C'est vrai que j'ai eu toujours une très belle relation avec le portugais. Comme vous savez, moi, comme portugais, j'ai travaillé beaucoup d'années en France, un pays qui existe beaucoup de portugais.
Oui.
La relation, c'était toujours excellent. Mais à partir du moment que nous parlons de Paris Saint-Germain, on devrait parler
De tous les supporters. D'accord.
Bien sûr.
D'accord.
Stéphane, Tiki, Pedro, dernière réaction, avec Pedro.
S'il vous plaît. Vous êtes celui qu'on a surnommé l'aigle des Açores. Vous nous avez fait rêver en étant l'aigle des Açores. Et comme disait mon collègue tout à l'heure, vous êtes l'homme des coupes. Et c'est vrai qu'on a remarqué que ce Paris Saint-Germain, dans les matchs importants, dès que le Paris Saint-Germain est mené, que ce soit en finale récemment encore à la Coupe de France ou dans les matchs décisifs, il y a un problème de mentalité. Est-ce qu'on peut pas rêver, nous qui vous avons vu jouer déjà à Bordeaux puis à Paris, prendre un peu ce rôle en tant que, j'allais dire, coach des attaquants pour que les puissent prendre un peu plus notamment de mental pour jouer dans les grands matchs?
Écoutez, je ne crois pas qu'aujourd'hui le joueur que Paris Saint-Germain est là devant qui a besoin de coach des attaquants, c'est des joueurs de grande qualité qu'ils ont démontré. C'est vrai que le moment,
c'est au niveau du mental.
C'est pas le meilleur, c'est pas le bon moment. Je ne sais pas si c'est au niveau du mental, mais c'est vrai que c'est nécessaire déjà donner la tranquillité aux joueurs pour gagner toutes les compétitions internes, c'est-à-dire championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue, et après chercher cette Champions League. Et j'ai l'impression que chaque fois que la Champions League est éliminée de la Champions League, tu penses que la saison est terminée. Et là, oui, là, c'est nécessaire de travailler la mentalité des joueurs, que c'est tellement important de gagner toutes les compétitions en France pour continuer à faire grandir le club. Tu sais, pour grandir un club, c'est nécessaire de titres. Et Paris a besoin de titres. Il y a un nombre énorme de gagner des titres.
Pedro Miguel Paoletta, une dernière réaction rapidement.
Dans un match de Portugal, j'ai besoin de partir.
Ouais, justement, dernière, pour vous, qui remportera la Champions League cette saison ? pour vous, le club?
Ouais, je pense Barcelone.
Barcelone, hein, pour Paoletta.
Je vois l'équipe plus forte.
Ouais.
Je vois l'équipe plus forte à ce moment.
Et en tout cas, restez fort comme vous le faites. Et merci pour votre disponibilité,
merci
pour
beaucoup.
Tous les auditeurs de Beurre FM. Un grand merci, merci. Pedro merci. Miguel Paoletta, d'avoir merci. Été avec nous. Merci, merci à vous et à toute la communauté portugaise en France aussi. Elle est nombreuse. Nous, on enchaîne avec l'Olympique Lyonnais et le président qui est Jean-Michel Aulas, qui doit rencontrer depuis ce matin, cette journée qui est mardi, des candidats à la succession de Bruno Genesio. On le sait depuis un moment maintenant, Genesio ne serait plus l'entraîneur de l'OL la saison prochaine et Monsieur Aulas se positionne déjà sur plusieurs dossiers comme le fameux cas José Mourinho, Laurent Blanc ou encore Patrick Vieira et même l'Argentin Gallardo. Faut-il se presser pour engager un coach le plus rapidement possible et se tourner vers la saison 2019-2020? Jouba ou Ishan, on l'écoute.
Alors, pour moi, oui, je pense qu'il faut quand même se presser. Aulas a raison de maintenant s'atteler à trouver un coach. Il y a eu une mauvaise communication sur les dernières semaines autour de Genesio. Maintenant qu'on sait que le cas de Genesio est réglé, il a des touches peut-être avec le Maroc, etc. Mais pour le club de Lyon, il faut se tourner vers la saison suivante une fois que cette saison est finie. Il faut se qualifier en Ligue des Champions.
Ouais.
Et Aulas s'active en dehors du sportif à trouver un coach pour ensuite avoir aussi la cellule de recrutement. Il faut que les joueurs qui vont partir, les joueurs qui vont être recrutés soient décidés par le coach qui va arriver et pas qu'on lui impose ensuite des choix. Et donc je pense que c'est important que ce coach-là soit arrivé dès la fin de la saison et le plus tôt possible.
Stéphane Tiki, concernant cas Genesio et Lyon.
Un peu taquine.
Ouais.
Est-ce que Jean-Michel Aulas ne serait-il pas un pompier pyromane? Moi j'ai l'impression qu'il
éteint
les incendies qu'il a lui-même allumés. Franchement, Bruno Genesio, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas la saison de Lyon en Ligue des Champions a été au-delà des espérances. Et c'est vrai que c'est quand même Jean-Michel Aulas qui dit oui, voilà, on va attendre telle période pour décider si on va le renouveler. Il gagne du temps, puis finalement il annonce quand même en conférence de presse. Je trouve ça très humiliant de là pour l'entraîneur d'apprendre qu'il n'est pas renouvelé parce qu'il a perdu un match alors qu'il a une saison. C'est aussi de, peut-être, j'en discute souvent avec Bilal, mais le monde d'aujourd'hui dans lequel on chasse tout ce qui s'est passé avant et on prend souvent l'actualité la plus récente. On a oublié les scores qu'il a fait contre Manchester City, tous les matchs qu'il a remportés. On dit oui, mais bon, comme là il a perdu, il n'a pas qualifié pour la finale. Je termine juste. Et en deux, je pense que moi j'aime beaucoup le président Jean-Michel Aulas. Quand je dis le président, c'est pour dire l'homme qui a construit son stade, l'homme qui a façonné cette équipe depuis les années 90, qui a quand même amené à avoir le record de 7 titres de champion de France. Mais je pense que pour qu'un club, comme ça marche dans les autres grands clubs, puisse fonctionner, le président doit rester à l'écart. On n'entend pas autant le président du Real de Madrid. On n'entend pas autant le président du Barcelone. Il y a un président, il y a un directeur sportif, il y a un coach. Et je pense que si Jean-Michel Aulas laissait chacun faire son job, peut-être que les Lyonnais se porteraient
mieux. C'est là que le directeur sportif manque à l'OL. On parle depuis des années d'un retour de Juninho, la légende du club à Lyon. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de directeur sportif et Aulas ne délègue pas tout ça. Il ne veut pas déléguer tout ce qui est sportif. Il s'occupe de tout ça. Il a son conseiller Lacombe et Ouillet avec lui. Et le problème, c'est qu'il ne veut pas justement déléguer ce poste. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a des entraîneurs comme Hubert Fournier, comme Genesio, qui n'ont pas cette aura autour d'eux, qui peut causer des problèmes dans l'équipe et sur le mental.
Merci. Et Jouba, on va terminer sur le cas de l'Olympique Lyonnais avec toi, Tristan.
Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas non plus trop se presser, parce qu'on sait que l'environnement lyonnais est particulier, avec, voilà, on l'a dit, un président omniprésent qui a façonné le club, mais qui aujourd'hui, voilà, fait des choix parfois un peu contestables, hein, même si ça ne lui retire rien à tout son prestige et tout ce qu'il a fait à l'Olympique Lyonnais. Mais en tout cas, que ce soit Vieira, Blanc ou d'autres, ils sont un peu extérieurs au microcosme lyonnais et il faut vraiment qu'ils s'adaptent à ça pour pouvoir espérer faire mieux que Genesio, qui lui n'était pas un entraîneur de renommée mais connaissait par cœur le club. Et c'est ça qui est compliqué à Lyon, à mon sens.
Merci Tristan Telfouche pour cette réaction concernant l'Olympique Lyonnais. On entamera la page football anglais avec les Citizens de Pep Guardiola, sans oublier le match de ce soir tant attendu, 21h du côté d'Anfield Road. Liverpool reçoit en demi-finale de la Champions League retour le FC Barcelone. Et un petit mode pressing allant cette fin d'émission sur les playoffs et le championnat nord-américain de basketball.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en live jusqu'à 19h. la page football anglais avec les consultants autour de la table. Je le rappelle, Tristan, il y a Mamadou, il y a aussi Nassim, Jouba, Guillaume et Stéphane. Un petit clin d'œil à Yasmine, à notre community manager, sans oublier Vanik, mais aussi la réalisation avec Flo et Hugo. On prend le chemin de Manchester.
Time Sport, la victoire.
Et les Citizens ont dû attendre la 70e minute et une frappe formidable, un boulet de canon de son capitaine belge Vincent Kompany pour battre Leicester, 1-0. L'équipe de Pep Guardiola reprend donc la tête de la Premier League, un point d'avance sur Liverpool avant la dernière journée ce dimanche. Manchester City a réalisé le coup parfait donc hier soir en s'imposant face à cette équipe de Leicester dans un match tendu où il aura fallu cette 70e minute et un missile de 30 mètres du capitaine Kompany pour débloquer le score. Les Citizens s'en sortent avec les 3 points et abordent la dernière journée avec leur destin entre les mains. Un point, c'est le maigre écart qui les sépare avec les Reds de Liverpool. Pensez-vous que le titre s'est joué hier? Nassim, on t'écoute.
Il y a en effet de grandes chances que le titre se soit joué hier, notamment sur cette belle frappe du capitaine belge qui a bien porté son brassard pour le coup. Incroyable, incroyable.
Il n'a pas eu peur. Il a tenté, c'est passé.
Il a tenté, son équipe était en difficulté. Le défenseur central est monté aux avant-postes et il a placé une Bundesfrapp en première ligue pour nettoyer la lucarne. Et franchement, très belle frappe qui peut donner le titre parce qu'il ne faut pas oublier que le dernier match justement de Manchester City, qui est aussi le prochain, se jouera contre Brighton. Il y a de fortes chances que City gagne ce match, même si ce n'est pas encore fait. Après, oui, je ne m'attendais pas du tout à une telle frappe de Kompany. C'est bien joué de sa part. Et ça serait quand même malheureux pour Liverpool. Je ne suis pas spécialement fan des Reds. Mais s'ils venaient à perdre ce championnat, ça voudrait dire qu'ils perdraient la Première Ligue avec une seule défaite au compteur.
Ouais.
C'est assez fort quand même.
Ouais, toujours de la compassion envers les gars de la Bundesliga, les anciens du moins. Hein, tu le vois, c'est Nassim ça, c'est Nassim.
C'est lui.
On t'écoute, Mamadou.
Tu avais parlé de Bundesrap.
Moi, je parlais aussi de Jürgen Klopp.
Frappe à la Klaus Augenthaler, tu connais Klaus
Augenthaler. Ah,
oui, je connais. Mais après, c'est pas vraiment mon époque. Je suis encore assez jeune.
J'ai fait un raccourci pour. Ouais.
Le tac.
Très content pour Vincent Kompany qui n'a pas été épargné par les blessures, multiples blessures. Un joueur superbe. Il faut savoir que c'est un joueur qui jouait très tôt avec les seniors. À partir de 17 piges, c'est un joueur qui a toujours évolué avec l'équipe première. Content pour son retour. Et puis c'est peut-être symbolique que ce soit lui qui marque ce but, qui va peut-être donner, effectivement, je pense, l'ascendant psychologique pour City face dans la ligne droite qui l'oppose à Liverpool.
Donc, Tristan, on écoute.
Quand tu vois ce but, en plus, tu vois Laporte et Kompany qui sont alignés à 30 mètres du but de Leicester, de la ligne de but de Leicester. Donc ça résume bien le style Guardiola. Gros coup de chapeau à City. J'ai parfois été dur avec eux ici parce qu'ils m'avaient déçu en Ligue des Champions.
Oui.
J'étais déçu qu'ils n'aillent pas plus loin parce que juste ce qu'on voit en Première Ligue, c'est de la régalade tous les week-ends. Donc voilà, il y avait ces petites déceptions. Mais en championnat, c'est juste incroyable. Il faut rappeler que l'année dernière, ils ont fait 100 points. Là, s'ils gagnent le titre, s'ils gagnent leur dernier match, ils seront à 98 points. 198 points en deux saisons de Première Ligue, les amis. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'autres stats. C'est juste incroyable.
Et on termine avec toi, Jouba, sur les Citizens.
C'est incroyable, on l'a tous dit. Et je pense que c'est au moins ce qui va leur servir à atténuer la déception de la Ligue des Champions. Parce que c'est une véritable déception. Et justement, gagner pour une deuxième fois cette Première Ligue, ça va un peu les soulager. Et concernant Kompany, comme l'a dit Mamad, de toute façon, c'est un coup de génie. C'est historique ce qu'il vient de faire. C'est du même niveau que le but d'Aguero contre, je ne sais plus, qui donne le titre. Et malheureusement, ça tombe sur Liverpool qui va encore une fois perdre le titre à moins d'une victoire, comme c'était le cas il y a quelques années, en 2014, il me semble, déjà contre City. Donc, dommage pour eux.
On reste de l'autre côté de la Manche.
Time Sport. Le duel.
Un gros duel ce soir en Champions League édition 2018-2019. Liverpool et Reds dans son antre en Anfield Road accueillent le FC Barcelone de Léo Messi. Les Reds diminués face à l'Everest barcelonais, battu 3-0, on le rappelle, à l'aller au Camp Nou après une nouvelle prestation XXL d'un Léo Messi, auteur d'un doublé. Les Reds pourront-ils réaliser en quelque sorte cet exploit pour disputer leur deuxième finale de Ligue des Champions de suite consécutive, et eux aussi devront se passer de Roberto Firmino, encore le Brésilien, ou l'Égyptien, le pharaon Mohamed Salah. On écoute Nassim. Un peu tristouné, Nassim. Mais non, il faut pas. Non, il faut avoir le sourire.
Pas forcément triste. Je rappelle qu'ils ont éliminé le Bayern.
Ouais.
Mais il y a aussi...
toujours, voilà, toujours le Bayern.
Tu parles des deux joueurs blessés, mais il y a aussi Naby Keïta en plus qui s'est blessé au milieu de terrain.
Qui participera pas.
Voilà, donc qui participera pas à la CAN qui plus est. Ça va être très compliqué. C'est tendu à Anfield. Ils ont face d'eux un monstre qui veut retrouver le ballon d'or, qui est Lionel Messi, accompagné de tous ses acolytes. Ousmane Dembélé sera blessé, donc il ne jouera pas. Mais il y a aussi Ter Stegen au cage, qui va encore une fois très
magistral
faire
aussi
un match de folie. Mais attention, parce que je tiens à rappeler que l'AS Roma avait réalisé une remontada contre le Barça, donc pourquoi pas Liverpool. Mais là, amputé de Mohamed Salah, ça s'annonce compliqué.
De l'autre côté, justement, on a bientôt 32 ans, le quintuple Ballon d'Or. Léo Messi, plus décisif que jamais, sera lui bien présent. Et Stéphane, il pourra faire la différence.
Je pensais que Bilal me charriait parce que moi aussi j'ai bientôt 32 ans.
Donc, je me suis dit,
où est-ce qu'il va m'emmener ?
T'inquiète pas.
Non, mais sur Messi, je voulais rendre hommage d'ailleurs à. Parce qu'on ne le fait pas assez. On tape toujours sur les entraîneurs quand ça ne va pas, mais quand ça va, on ne le dit pas assez. Et Ernesto Valverde a quand même transformé le style du Barça, notamment à cette capacité à défendre derrière, 7 derrière, comme ils ont fait au match aller. Ça, c'était jamais vu parce que les gens ont l'habitude du tiki-taka. Et ce n'est pas une dédicace à mon nom de famille, je précise.
Ouais.
C'était facile.
Ouais, pas elle arrivait toute seule, ça.
Ouais, Stéphane, non.
C'était facile.
Ouais, on n'a même pas vu venir. Elle est bien placée. Elle est bien placée,
Stéphane. C'était facile. Mais tout ça pour vous dire que Lionel Messi, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et je dirais pas, je rentrerai pas dans les comparaisons de ceux qui disent le meilleur joueur de tous les temps, parce qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas vu jouer qui étaient quand même exceptionnels. Mais en tout cas, dans les 15 dernières années, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde parce qu'il a une capacité à être décisif, à créer le jeu, ce que fait pas Ronaldo, parce que lui, il crée le jeu.
Et être régulier.
Et être régulier et il porte l'équipe. Et là, par exemple, dans le nouveau système, je termine juste ma phrase, il est le seul à ressortir le ballon. C'est-à-dire que derrière, il garde quand même Busquets avec Vidal. Et lui, il est le seul à porter le ballon pour l'amener devant. Et avoir ce joueur qui arrive à faire la transition attaque-défense comme ça, voilà, c'est un joueur exceptionnel. Donc pour moi, le Barça va gagner ce soir.
Le Barça, la Masia aussi, son centre de formation très très fort. Et le Barça pour Stéphane vont remporter cette demi-finale retour. Et pour toi, Guillaume Ascarelli.
Moi, c'est Barça. Ouais. Le Barça, pareil.
Blaugrana.
Un peu comme tout le monde ici, un peu comme notre invité,
incroyable,
aussi, Pedro Miguel Pauleta.
Si on regarde
un peu ce qui a pêché du côté de Liverpool lors du match aller, c'est surtout le réalisme, l'efficacité. On peut même le dire, c'est Liverpool a tiré plus de fois que Barcelone, a fait plus de tirs cadrés, mais au final ils ont pris 3 pions. Donc si on continue sur le même état d'esprit et sur le manque de réalisme et le manque d'efficacité qu'on a vu au match aller, forcément à mon avis Barcelone va passer tranquillement et derrière en finale ils feront le travail.
Mamadou.
Non, mais le problème aujourd'hui pour Liverpool, c'est qu'en fait dans un Messi, il y a 3 joueurs. Il y a un Messi, il y a un Iniesta et un Xavi. Aujourd'hui Messi, il est capable de jouer comme jouait Iniesta, il est capable de jouer comme jouait Xavi, il est capable de jouer comme jouait Léo Messi. Donc en fait, vous avez 3 joueurs en un, ce qui fait que ça va être très très compliqué quand on sait que en face, il manque du Firmino, il manque du Naby Keïta et il manque du le pharaon Mohamed Salah.
C'est
compliqué. On a 3 Messi en un aujourd'hui. Faut le voir, la manière dont il a réussi à transformer son jeu et l'hommage que fait aujourd'hui Stéphane à Ernesto Valverde, il faut le faire parce que quand un coach réussit à faire quelque chose, on ne le dit pas assez, on pointe trop les problèmes des coachs. Mais quand ça réussit, et aujourd'hui, là, il nous a transformé un Messi en 3 bonhommes. C'est fantastique.
On n'oublie pas, hein, même Yasmina me le disait, un scénario comme l'année dernière, Rome-Barcelone. Aïe, 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 attention.
C'est possible.
Aux Barcelonais. Ouais, Tristan.
C'est vrai que Valverde mérite un peu qu'on lui dresse les lauriers vu les résultats qu'il est en train d'accomplir. Maintenant, vous l'avez dit vous-même, là où il y avait des critiques, c'était parce que le Barça, c'est pas seulement une équipe comme les autres, c'est vraiment une école de jeu avec une identité que tout le monde connaît.
Très forte.
Donc c'est pour ça qu'il y avait. Enfin, moi, je vais aller un peu à contresens. Voilà, je suis pas non plus enchanté par le Barça, quoi. Et je trouve que Liverpool a fait un gros match et méritait vraiment mieux à l'aller. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas été efficaces. Il y aurait eu du suspense aujourd'hui. Mais effectivement, pour le match qui nous attend ce soir, étant donné que ce Barça est plus défensif et que ce Liverpool est privé de ses atouts, oui, ça me paraît compliqué de remonter 3 buts, forcément. Mais voilà, pas non plus totalement fan du Barça 2019.
Jouba, on termine.
Moi, je suis
concernant
avec
cette demi-finale retour avant
Barça
la NBA.
Le Barça 2019 est inquiétant, mais comme celui de 2018, il se repose trop sur Messi et Ter Stegen. C'est vraiment les deux piliers de cette équipe. Et le problème, par contre, qui va se poser pour Liverpool, c'est qu'il va falloir aller marquer plus de 3 buts, mais en même temps ne pas en prendre face à un Messi hors norme. Je pense que la mission est totalement impossible. au-delà de ce qu'avait fait la Roma, vu que Liverpool n'a même pas ses principaux joueurs offensifs qui, au match aller, se sont un peu troués à l'image de Salah et de son action qu'il met sur le poteau. Voilà, ça se joue à des détails et ouais. À ce jeu-là, le Barça cette année est bien plus fort.
Allez, deux réactions rapidement avec Guillaume et Stéphane avant la NBA.
On parle de match retour, c'est également le retour de deux joueurs sur la pelouse d'Anfield ce soir. Je crois qu'on l'a évoqué ici, c'est le retour de Suarez et le retour de Coutinho qui seront à Anfield ensemble. L'un a quitté Liverpool en 2014, l'autre en 2018. Donc à voir si la célébration sera la même, si Suarez marque ce soir comme au match aller.
Stéphane, Stéphane, rapide.
Ben sur le Barça, moi je suis d'accord, c'est vrai qu'ils sont moins flamboyants qu'on pourrait l'imaginer, mais c'est vrai qu'ils ont cette capacité à pouvoir gagner, parce que le but, avant ils tricotaient beaucoup derrière, ils n'étaient pas totalement finisseurs devant. Ben là ils tricotent moins, mais ils gagnent. Donc on retiendra quoi à la fin? Comme on a retenu que la Grèce a gagné l'Euro en 2004, on retiendra que le Barça a gagné la Champions League.
Et comment NBA avec Jamal Murray, c'est parti.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, Jamal Murray de Denver, l'homme qui shootait les lancers francs, les yeux fermés, le jeune meneur des Denver qui dispute les premiers playoffs de sa carrière, s'est montré décisif derrière la ligne de réparation, son exercice de prédilection pour permettre aux Nuggets d'égaliser sur le terrain de Portland partout. Justement, assiste-t-on à des playoffs de haut niveau comme attendu après cette saison prometteuse en termes de suspense?
Alors oui, Bilal, pour moi, ouais. On assiste à de grands playoffs. On a quatre grandes équipes en demi-finale du côté de l'Ouest. Le match, on ne l'attendait pas spécialement, mais Portland-Denver est assez plaisant à regarder. On a Jamal Murray et en même temps Nikola Jokic qui, cette année, font leur premier playoff et les font à un niveau incroyable. Ils peuvent aller en finale de conférence pour aller battre, justement, ils vont essayer entre les Warriors et les Rockets, une autre série incroyable qui se joue. Match ce soir, c'est des matchs à suivre et c'est ce qu'on aime sur la NBA.
Et c'est ce qu'on vous fera vivre sur la fanpage Facebook de Tamsport et aussi sur la twittosphère avec le hashtag Tamsport. Aussi des maillots. Oui, Stéphane.
C'est incroyable hein, parce que c'est vrai qu'entre James Harden, Curry et l'autre côté avec Kevin Durant.
Toutes les infos seront à déguster sur l'antenne de BORFM. Voilà. Un pronostic avec Tristan ce soir, Liverpool, Barcelone. Rapide.
Allez, un partout.
Pour Jouba.
2-1 pour le Barça.
Et pour Nassim.
2-1 Barça.
2-1 partout. On aura aussi Mamad rapidement.
2-0 Barça.
2-0 et Stéphane.
2-1 Barça.
2-1 et Guillaume.
3-0 pour le Barça.
Rendez-vous demain à la même heure et bonne suite de programme sur l'antenne de Beurre FM. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.